Vous écoutez, on lit pour vous.
Politique. Les décisions des élus ne sont pas meilleures que celles du public. Un texte d'Annie Labrec, paru le 16 avril 2025 dans le magazine Québec Science. Les politiciens et politiciennes prennent-ils les décisions les plus judicieuses pour la société? Pour le savoir, des scientifiques québécois en ont invité plusieurs à participer à une simulation dans leur laboratoire de l'Université Laval à Québec. Au total, 20 députés et conseillers municipaux, en poste depuis au moins 13 mois, ont accepté de se prêter au jeu littéralement. Les cobayes ont joué à Democracy 3, un jeu de stratégie dans lequel ils personnifiaient un ou une chef du gouvernement. Leur mission? Diriger un État pendant un mandat de 4 ans, de l'élection jusqu'au scrutin suivant, en prenant des décisions dans divers domaines comme la santé, l'éducation, la sécurité publique, l'économie. Par exemple, si une politique est mise en place, quel sera son effet à court terme sur le taux d'intérêt, l'inflation, le chômage? Et à plus long terme, quelles seront les conséquences sur les petites entreprises ou le secteur de l'éducation? Chaque décision a un possible impact sur un sous-groupe de la population. Cette expérience a permis de mesurer la performance de chaque joueur au bout de 45 minutes de jeu qui se termine avec un verdict « battu ou réélu ». Notre objectif était d'analyser la prise de décision politique chez les élus en exercice tant à l'Assemblée nationale qu'au niveau municipal. Explique Benoît Béchard, chercheur en psychologie et auteur principal de l'étude publiée dans la revue Cognitive Processing. Le jeu, c'est sérieux. Les résultats obtenus par les élus ont ensuite été comparés à ceux obtenus par 33 citoyens et citoyennes qui faisaient face aux mêmes défis et prises de décision. Un troisième groupe virtuel a aussi été créé à l'aide de 200 séries de décisions générées aléatoirement. Comment s'en sont sortis les élus? Les politiciens et politiciennes, qui ont habituellement une meilleure connaissance des enjeux politiques au quotidien, performaient légèrement mieux que les volontaires non élus. Les performances étaient équivalentes entre le groupe d'élus et le groupe de citoyens. Pourtant, les élus interrogés déclaraient avoir une bonne connaissance de la politique et une expérience concrète. Plusieurs mois d'activité parlementaire, des débats en commission, une maîtrise des procédures. Bref, des gens bien outillés. Et malgré tout, leurs résultats ne se démarquaient pas clairement de ceux du grand public. Note Benoît Béchard. Mais rassurons-nous, l'étude démontre que les élus prennent de meilleures décisions politiques que le troisième groupe virtuel généré au hasard. Les limites de la cognition. Bien que l'étude repose sur un jeu de simulation, Benoît Béchard estime que cela n'amoindrit pas la validité des résultats. Le jeu nous permet de solliciter en laboratoire les mêmes processus cognitifs que ceux mobilisés dans le monde réel lorsqu'on prend des décisions politiques, affirme-t-il. Selon le chercheur, face à des enjeux de société complexes, comme la gestion d'une pandémie et des changements climatiques, la cognition humaine atteint rapidement ses limites. Personne n'échappe à cette limite cognitive face à la complexité des enjeux du monde d'aujourd'hui, observait-il. Bref, cela signifie que notre cerveau a de la difficulté à jongler avec plus de 4 ou 5 variables et à prendre la meilleure décision dans ce contexte. Au-delà de ce seuil, il est difficile de prévoir ce qui va se passer dans le futur, explique-t-il. Pour repousser le plus possible ce mur cognitif, Benoît Béchard propose que les membres de la sphère politique soient formés sur les biais cognitifs, sur la pensée complexe et sur l'art d'anticiper les conséquences pour comprendre comment le cerveau traite l'information ou la déforme. C'était « Politique, les décisions des élus ne sont pas meilleures que celles du public. » Un texte d'Annie Lambrecht Labrec, paru le 16 avril 2025 dans le magazine Québec Science.
J'ai tout essayé. Un texte de Catherine Enfield, paru le 4 mai 2025 dans la presse. Tout a commencé lorsque Maude Melançon a posé son regard sur une photo d'elle prise en plein soleil aux côtés d'une amie. Un détail précis a monopolisé son attention. Le dessus de sa tête. Sur la photo, le soleil tapait sur mon crâne, se souvient Maude, 25 ans à l'époque. Je n'avais jamais remarqué l'ampleur de ma perte de cheveux. J'ai capoté. Puis, tout a déboulé. J'ai tout essayé. L'alopécie androgénique touche jusqu'à 12 % des jeunes femmes, 28 % des quinquagénaires et plus de la moitié des femmes de 70 ans et plus. Et elle se manifeste différemment de chez l'homme. La ligne frontale est généralement conservée, mais on observe une perte diffuse sur la partie centrale du cuir chevelu. La perte de cheveux chez la femme peut être causée par divers problèmes sous-jacents, souligne la dermatologue Elena Netchipourouk. Problèmes endocriniens, glandes thyroïdes, ovaires polykystiques, syndrome Saha. Mais chez moi, il n'y a pas de raison médicale autre que la génétique, raconte Maude, rencontrée par visioconférence. Ma mère non plus n'en a pas beaucoup, bien que ce soit moins grave que moi. À la mi-vingtaine, Maude Melançon travaillait dans une clinique médicale et des médecins lui ont d'abord suggéré des produits topiques. Un spray par-ci, un spray par-là. Mais à 70 $ le spray, c'était trop cher, se souvient-elle. J'étais au salaire minimum avec un enfant. Les assurances ne voulaient pas rembourser, y voyant une affaire esthétique. Mais c'était tellement plus que ça. J'en faisais une dépression. Maude s'est ensuite tournée vers des salons de coiffure. Lavement capillaire, produits densifiants à base d'huile naturelle, suppléments qui lui ont donné des maux de ventre et du duvet au visage. Puis d'autres traitements encore, à 100 $ la séance, avec une caméra fois 1000 pour observer la santé de son cuir chevelu. Je dois en avoir fait pendant 1 an, mais ça ne marchait pas non plus. Alors j'ai tout arrêté, dit-elle. Ça s'en venait comme une maladie, je focalisais là-dessus, j'étais gênée. Maude Melançon s'est fait tatouer le crâne, point par point, pour camoufler la peau de son crâne. Elle a souffert. Beaucoup. Puis un héritage lui a permis de tenter l'ultime traitement. Une greffe réalisée dans une clinique québécoise en 2021. Maude a éclaté en sanglots lorsque le médecin lui a annoncé le prix, 7 500 $. Elle est tout de même allée de l'avant, le cœur rempli d'espoir. « Chaque fois que je retournais à la clinique, dit-elle, pour les traitements PRP, des traitements régénératifs à 500 $ la séance, on me disait « Attends, tu vas voir, tu vas être contente ». Mais je n'ai jamais été contente. J'ai tout reperdu, ou presque. Selon le dermatologue Jeff Donovan, la greffe capillaire fonctionne bien chez une minorité de femmes seulement, celles qui ont une bonne densité de cheveux à l'arrière de la tête. Pourquoi des cliniques le font-elles quand même à celles qui, comme Maud, n'en ont pas assez? Savoir dire non est une partie importante dans la formation du chirurgien en transplantation capillaire, et c'est une partie parfois négligée, souligne le docteur Donovan, dermatologue. En dermatologie, le traitement de première ligne pour l'alopécie androgénique féminine demeure la solution de minoxidil qu'on applique en gouttelettes 2 heures avant d'aller au lit pour éviter que le produit ne coule dans le visage et y fasse pousser des poils. Dans le passé, Maud Melançon a essayé un produit à base de Copexil, un composé semblable au minoxidil. L'expérience a été plus ou moins heureuse. « Je n'avais jamais un beau cheveu, dit-elle. Et c'est un engagement à vie. Si tu ne le fais pas, tu perds toute l'efficacité. » Les femmes peuvent aussi essayer le minoxidil oral si elles ne sont pas enceintes et n'allaitent pas. Ne risque-t-elle pas de voir pousser des poils ailleurs? On peut rajouter un médicament qui s'appelle la spironolactone, à très très faible dose, qui est comme une anti-hormone masculine, explique la docteur Netchipourouk. La finastérie d'orale est aussi prescrite chez les femmes ménopausées. Après 15 ans de lutte et 15 000 $ jetés à la poubelle, Maud Melançon se dit que si elle trouve un jour une solution, elle sera médicale. Ses conseils? Se tourner vers de vrais professionnels de la santé et travailler sur soi, à s'accepter. Je me suis longtemps blâmée. Je me disais que j'étais trop stressée ou que je m'étais trop souvent lavé les cheveux. Quand j'ai compris que ce n'était pas de ma faute, ça a fait du bien. C'était « J'ai tout essayé », un texte de Catherine Enfield, paru le 4 mai 2025 dans La Presse.
Harvard peut-elle résister à l'attaque financière de Trump? Un texte d'Alan Blinder et de Stephanie Saul du New York Times, paru le 22 avril 2025 dans Le Devoir. L'université la plus riche du monde est attaquée par l'un des hommes les plus riches et les plus puissants de la planète. Les raisons de cette attaque sont liées à des désaccords sur l'antisémitisme, la politique raciale et le pouvoir brut. Et l'université Harvard pourrait bien y laisser des plumes et quelques milliards. Le gouvernement Trump a gelé plus de 2,2 milliards de dollars de subventions et de contrats destinés à Harvard, qui est également le plus ancien établissement d'enseignement supérieur des États-Unis. Alors que Harvard et le président américain Donald Trump s'affrontent au sujet des exigences intrusives du gouvernement, la richesse de l'université est devenue un point de friction. Trump a clairement indiqué qu'il pourrait vouloir récupérer jusqu'au dernier centime versé par le gouvernement à l'institution, et si l'IRS, Internal Revenue Service, retire à Harvard son statut d'exonération fiscale, peut-être même en obtenir davantage de la part de l'université. Lundi, Harvard a engagé une poursuite en justice contre le gouvernement, affirmant que ce dernier avait outrepassé ses droits. La question est de savoir si Harvard pourra supporter le coût si ses efforts juridiques échouent. Un bilan de plusieurs milliards. À la fin de son dernier exercice financier, Harvard disposait de 64 milliards de dollars américains après la prise en compte de ses différentes dettes. À titre de comparaison, le budget de l'État du Massachusetts pour cette année s'élève à environ 58 milliards de dollars. Chaque année, l'université reçoit des fonds provenant de diverses sources, notamment des subventions de recherche, des dons et bien sûr les droits de scolarité. Les frais d'admission seront bientôt de 59 320 $ US, auxquels s'ajoutent près de 30 000 $ US pour le logement, la pension et d'autres frais. mais la majeure partie de la fortune de Harvard, soit plus de 53 milliards de dollars, est conservée dans ses fonds de dotation qui ressemblent à un énorme compte de retraite conçu pour durer. Il pourrait sembler simple pour Harvard de puiser dans ses fonds lors d'une situation d'urgence, comme c'est le cas actuellement. De nombreuses personnes, dont l'ancien président américain Barack Obama et l'ancien président de Harvard, Larry Summers, l'ont d'ailleurs exhorté à le faire. C'est plus facile à dire qu'à faire. À Harvard, le fonds de dotation n'est pas un simple compte de banque à partir duquel l'université peut effectuer des retraits. Il est plutôt réparti dans plus de 14 000 fonds distincts, dont beaucoup sont financés par des particuliers ou des fondations familiales. Il faut aussi prendre en considération le fait que les dons sont parfois faits davantage pour flatter l'ego que pour répondre à une urgence. En effet, de nombreux donateurs qu'ils donnent à une université, à un lieu de culte ou à un aquarium assortissent leurs contributions de règles bien précises. À Harvard, environ 80% de la dotation est soumise à des restrictions, une proportion plus élevée que dans certaines autres universités de premier plan, notamment Yale et Princeton. Les universités ont souvent une marge de manœuvre limitée pour modifier ces conditions de leur propre chef. Les dirigeants de Harvard, comme leurs homologues de tout le pays, veillent également avec soin sur la dotation, qui est un gage de prestige. De plus, ces fonds de dotation sont fondamentalement conçus pour fournir un flux permanent d'argent, de sorte que le retrait de sommes considérables pourrait menacer la viabilité à long terme de l'université. Ce que les compressions budgétaires de Trump pourraient déclencher. Comme beaucoup d'autres universités de recherche du pays, Harvard est devenue dépendante du gouvernement fédéral pour financer certains des travaux les plus importants réalisés par ses médecins, ingénieurs et scientifiques. La plupart des fonds fédéraux consacrés à la recherche à Harvard proviennent du département de la santé et des services sociaux. En 2023, près de 150 millions de dollars par année provenaient d'autres agences fédérales, notamment les services de renseignement, la NASA et le département du logement et du développement urbain. L'ampleur totale des compressions budgétaires touchant Harvard récemment annoncées par le gouvernement n'est pas encore connue, notamment parce que l'université en apprend les détails au fur et à mesure que les chercheurs reçoivent des ordres d'arrêt de travail de la part du gouvernement. Parmi les projets visés jusqu'à présent, citons les travaux sur un outil de diagnostic de la maladie de Lou Gehrig, ou SLA, la recherche sur les voyages spatiaux et sur les maladies dues au rayonnement, et un programme de 60 millions de dollars pour lutter contre la tuberculose. Harvard, qui affirme avoir financé elle-même de la recherche pour 489 millions de dollars en 2023, a averti que de nombreux projets seront interrompus à mi-parcours si le financement fédéral disparaît. L'université a imposé un gel des embauches le mois dernier et pourrait finalement se résoudre à licencier du personnel, à fermer des laboratoires et à prendre d'autres mesures. Le gouvernement Trump s'en est également pris à d'autres sources de financement. Si le gouvernement fédéral révoquait le statut d'exonération fiscale de Harvard, une mesure que les experts jugent juridiquement douteuse, l'université se retrouverait en terrain inconnu. Harvard n'a jamais fonctionné comme une entité à but lucratif. Si les droits de scolarité étaient imposés comme des revenus, l'université pourrait déduire des dépenses comme les salaires des professeurs et du personnel et d'autres frais de fonctionnement. Par contre, les dons faits à l'université deviendraient imposables. La perte du statut d'exonération fiscale de Harvard réduirait le nombre de donateurs, le montant des dons ou les deux, a déclaré dans un courriel Samuel D. Bronson, professeur de droit à l'Université Loyola de Chicago, qui étudie les organisations à but non lucratif. Le gouvernement Trump pourrait également prendre d'autres mesures financières défavorables. Parmi celles-ci, les dirigeants républicains, dont le vice-président J.D. Vance, qui a bénéficié d'un généreux financement universitaire pour étudier à la faculté de droit de Yale, ont fait pression pour augmenter les taxes d'assises sur les dotations, qui passeraient de 1,4% actuellement à 35% des revenus nets annuels des investissements. Et les politiques tarifaires de Trump pourraient entraîner une hausse des prix, a fait remarquer l'université. Une baisse du nombre d'étudiants internationaux, voire leur disparition totale, pourrait constituer un autre coup dur. Ce que Harvard pourrait devenir. Harvard n'a pas dévoilé tous ses plans d'urgence. Puiser dans sa tirelire constituée par ses dons aurait des conséquences pendant des années. Ce dont se réjouiraient sans doute les détracteurs de l'institution, mais même certains proches de Harvard affirment que l'université fait face à une crise qui pourrait bien l'obliger à prendre de telles mesures. Drew Gilpin-Faust, président de Harvard pendant la Grande Récession, a averti que les compressions budgétaires du gouvernement Trump pourraient avoir des conséquences imprévisibles et profondes pour l'université. Les écoles qui dépendent fortement de leurs fonds de dotation, comme la Harvard Divinity School, pourraient subir des compressions importantes si les administrateurs cherchent à réaffecter les fonds à d'autres départements de l'université qui dépendent fortement des subventions fédérales, comme la T.H. Chan School of Public Health. Près de la moitié des revenus annuels de cette école proviennent de fonds fédéraux. C'était « Harvard peut-elle résister à l'attaque financière de Trump? » un texte d'Alan Blinder et Stephanie Saul du New York Times paru le 22 avril 2025 dans Le Devoir.
Alimentation et patrimoine immatériel, une relation pleine de saveurs. Un texte de Lucia Iglesias-Kuntz, paru dans le numéro avril-juin 2025 du courrier de l'UNESCO. Une cinquantaine de pratiques culinaires traditionnelles sont inscrites sur les listes du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Non, la baguette française n'est pas inscrite au patrimoine immatériel, pas plus que le couscous ou la pizza napolitaine, quoi qu'en disent certaines publications en ligne ou sur les réseaux sociaux. En fait, ce que distingue les listes du patrimoine culturel immatériel de l'humanité, ce ne sont pas des plats, mais des pratiques culturelles transmises de génération en génération, dont beaucoup sont liées à la nourriture et à la boisson. Ce ne sont pas non plus des produits, mais les façons de les cultiver, de les préparer ou de les consommer. Les pratiques culinaires traditionnelles, qu'elles soient liées à la vie quotidienne ou à des occasions spéciales comme des rituels ou des événements festifs, constituent une partie importante du patrimoine immatériel dans le monde entier, explique Fumiko Ohinata, secrétaire de la Convention de l'UNESCO pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel. Les listes de la Convention peuvent être considérées comme un livre de recettes dans lequel nous pouvons tout partager, des entrées au dessert, toutes sortes de plats, de boissons, de pains. Pas moins de 50 pratiques culinaires sont aujourd'hui inscrites et 8 d'entre elles sont multinationales, ajoute-t-elle. Les pratiques culinaires occupent une place de plus en plus importante sur les listes du patrimoine immatériel. On y trouve des éléments tels que l'art du pizzaïolo napolitain, les savoir-faire artisanaux et la culture de la baguette française ou encore les traditions liées à la production et la consommation du couscous, partagé par l'Algérie, le Maroc, la Mauritanie et la Tunisie. On pourrait citer encore le régime méditerranéen, Chypre, Croatie, Espagne, Grèce, Italie, Maroc et Portugal. La cuisine traditionnelle mexicaine, la préparation et la consommation du ceviche péruvien, une recette de poisson cru mariné ou encore de la soupe jumu haïtienne. Ressources pour le développement. Au-delà de leur dimension culturelle, ces pratiques ont aussi en commun de favoriser un régime alimentaire varié, respectueux des écosystèmes et du maintien de la biodiversité génétique. De nombreuses pratiques culinaires sont fondées sur le respect de la saisonnalité, l'utilisation de produits locaux et le recyclage des restes alimentaires. Elles sont aussi des occasions d'échange, de conversation et de dialogue, renforçant ainsi la cohésion sociale, explique Pierre-Luigi Petriot, directeur de la chaire UNESCO du patrimoine culturel immatériel à l'Université Unitelma Sapienza de Rome, Italie. Une étude menée par cette chaire entre 2018 et 2023 montre que, suite à l'inscription de l'art du pizzaiolo napolitain sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel, les cours pour apprendre à confectionner la pizza ont augmenté de 65,3% et les écoles accréditées se sont développées de 33,5%, 85% d'entre elles étant situées hors d'Italie. De son côté, Luis Benito Garcia, professeur d'histoire contemporaine à l'Université d'Oviedo, Espagne, estime que l'inscription de la culture asturienne du cidre sur la liste représentative est de nature à favoriser son intégration à tous les niveaux de l'enseignement. Par ailleurs, comme il s'agit d'un élément lié à un secteur productif, elle devrait faciliter son développement par la plantation de pommiers qui peut fixer une population jeune à la campagne et protéger une industrie durable, artisanale et familiale. Pour aller plus loin, l'UNESCO travaille actuellement à la réalisation d'un atlas international du patrimoine alimentaire et d'une plateforme numérique pour le sauvegarder, le promouvoir et le transmettre aux générations futures. Ce projet, financé par l'Arabie saoudite, vise à mettre en lumière la diversité des pratiques alimentaires en tant que patrimoine vivant et leur lien avec le développement durable en partageant des exemples de sauvegarde provenant de communautés et de pays du monde entier. Il devrait voir le jour d'ici la fin de l'année 2026. Comme le résume l'anthropologue Miguel Hernandez, les pratiques culinaires combinent l'histoire, la mémoire, la gestion de l'environnement, les échanges culturels, l'économie, les rôles de genre et les goûts particuliers, ce qui nous permet de penser le patrimoine culturel immatériel comme une ressource pour le développement qui peut permettre la résilience des communautés face aux défis de la mondialisation et du changement climatique. C'était « Alimentation et patrimoine immatériel, une relation pleine de saveurs », un texte de Lucia Iglesias Gunz, paru dans le numéro avril-juin 2025 du courrier de l'UNESCO.